Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Bonsoir, Michel Philippot, heureux de vous accueillir sur Bretagne 5 dans votre rendez-vous dominical. La plume est à vous. Avec ce soir, un texte d'un auteur que nous avons déjà accueilli ici, Sigrid Morgantini. Ce conte philosophique empreint d'une subtile poésie fut écrit en août 1993, m'a confié l'auteur, quelque part en mer Égée, à bord de la Cumalilar, un petit bateau de croisière n'excédant pas 8 cabines, au large de la péninsule de Bodrum. Le détail a son importance puisque le texte est dédié par son auteur à Shadi, le capitaine de la Cumalilar. Ce conte, aux accents orientaux, intitulé précisément « Shadi et les hommes », plonge au cœur absurde de la folie des humains qui ont oublié que s'ils appartiennent à la terre ne leur appartient pas. Je voulais vous faire un cadeau avant mon départ, un cadeau d'adieu. Non, un cadeau d'au revoir. J'ai pensé au boléro de Ravel, joué par l'orchestre philharmonique de Berlin ou de Vienne. J'ai pensé aussi donner au regard de vos yeux un tableau de terre de Sienne, de poudre d'or du temps et de poussière d'étoiles, un peu à la façon du vieux fou hollandais. Mais je n'ai pas osé. Nous n'avons pas assez de souvenirs qui pleurent, vous et moi. J'ai peur de les provoquer. J'ai pensé, encore, vous sculpter une cavale de glace ou de cristal de lune. Mais je ne vais plus guère dans les terres désertées par le soleil depuis longtemps. Et la lune, j'y suis tellement peu souvent à présent. J'ai eu des idées de cadeaux grandioses, n'est-ce pas? Ah, allez va. Je vous aurais offert ce genre de cadeaux il y a longtemps, quand je jouais encore à la fausse adolescente. Mais aujourd'hui, j'ai compris. J'ai bien compris que si vous faites la démarche de venir ici, dans mon jardin, cueillir un bouquet de simplicité sauvage, vous n'aimeriez pas ce genre de cadeau pompeux. Eh oui, aujourd'hui, je sais. Enfin, je sais un peu. J'ai appris, je saisis. Et je sais que vous savez que je sais. J'ai vécu pour apprendre que c'est l'ordinaire qui est exceptionnel. Le ventre chaud, les oiseaux, les bateaux, une petite fille en robe rouge, une caresse, un silence, une larme de joie. Et le temps, il est toujours là, le temps. Alors, laissons-le, vous savez, laissons le temps au temps. Et par la même occasion, laissons donc le passé au passé. Ce cadeau-là aussi, je sais que vous n'allez pas l'enfermer dans un coffre, le coller dans un cahier ou le ranger dans une trousse de secours d'urgence. Je sais que vous allez le partager, le faire goûter à d'autres, en faire profiter des amis, des compagnons. Je sais que, enfin, je sais que vous savez ce que je veux dire. Je tenais à vous faire mon cadeau ici, dans mon jardin, parce que vous avez compris, au fil du temps, que c'est ma terre de vie et de mort. Oh, pas plus, mais pas moins que mon trois-mâts, chimère vole au vent. Et tout autant que mon arbre qui cache la forêt, ou que mon verger de fruits défendus ou autorisés. Et ce jardin, finalement, c'est ma petite parcelle de terre, loin des extrêmes où l'on ne se perd pas. Vous avez vu ? Ouais, là-bas. Oui, près de la source. J'ai réussi à faire pousser le même arbre que celui que j'ai dans la tête. Là-bas. Vous le voyez ? J'ai vieilli un peu. Mais je m'égare. Je veux simplement que vous sachiez que mon cadeau que je souhaite, que ma voix, enfin je souhaite que ma voix traverse les mers et les océans, que d'autres oreilles, d'autres cœurs m'entendent. Je voudrais tant que l'homme qui fabrique des histoires de théâtre, le beau viking qui souffre étrangement, m'entendent. Peut-être parce qu'alors, il n'aurait plus peur des fées. Peut-être. Je voudrais tellement que ma voix parvienne jusqu'à ceux qui se penchent sur les grands puits de science. Tiens, comme notre amie Valère, chercheuse, qui cherche encore et toujours pour les enfants des autres, pour ces enfants qui ne grandiront pas, avec tout l'amour des enfants qu'elle ne mettra jamais au monde. Je voudrais que ma voix parvienne jusqu'à la petite puce, vous savez, mais si, vous savez, celle qui ravive si bien notre cerveau quand on est tellement triste. Je voudrais que ma voix atteigne le plus gros homme du monde, celui qui est perdu pour lui-même, tant il a avalé de gâteaux de chagrin. Tout comme je voudrais que ma voix parvienne jusqu'aux petits d'hommes qui ne sont pas mes fils, mais qui ont mon sang d'esprit. Ils ont si bien grandi. Oh, ils ne savent pas toujours quoi faire de l'âge adulte, mais... Et je voudrais que ma voix parvienne jusqu'à ma mère et cautionne son repos. Oui, je veux vous dire ce que je voudrais dire à d'autres, des amis de fortune, des frères de sang ou de rencontre. Même s'ils ne sont pas là, plus là, ou pas encore là. Oui. Je me laisse emporter, hein. Votre cadeau. Mais c'est une histoire, bien sûr. Attention à vous, souvenez-vous. Il faut parfois se méfier des histoires. Elles ont une fragilité ou une violence qui change, qui peut changer. Changer la vie, on ne sait jamais dans les histoires. Souvenez du jour où un conteur chevalier a sauvé une fille qui était tombée dans une histoire de mer. Mais si, une lourde robe d'écume l'entraînait au plus profond des flots, des pieuvres engluaient ses cheveux frangés d'algues bleues. Un requin commençait à grignoter son âme et elle avait oublié qu'en plongeant la tête, la première dans une histoire de mer et de soleil, même pour suivre les dauphins, on peut
On peut être englouti. Il a eu du mal à la repêcher. Son armure le gênait. Mais il a réussi à tailler les bras des monstres qui ont serré la fille aux cheveux bleus. Vous vous souvenez? Il l'a déposée doucement sur la grève. Et le vent a séché délicatement les sanglots de son histoire. C'était beau. Et depuis, nous avons cette fille du vent dans nos mémoires. Lui et moi. Et puis vous. Non. N'allez pas croire que je ressasse cette histoire de chevalier conteur par orgueil, par... Dieu merci. Il y a longtemps que nous en avons fini avec l'orgueil, vous et moi, n'est-ce pas? Non. Non, je voulais simplement vous rappeler que les histoires ne sont pas anodines. Il faut croire aux histoires, d'où qu'elles viennent, où qu'elles aillent. Ce n'est que le vent qui les amène et les emporte, bien sûr. Mais il faut croire aux histoires. Et voici mon cadeau, voici mon histoire, Shadi et les hommes. À l'époque où le pogo des Indiens n'était pas un vain mot, encore moins une curiosité touristique pour japonais photographieurs ou pour européens vacanciers bien pensants, à l'époque des véritables sorciers, à l'époque où l'homme, fils de la terre, n'avait pas de velléité d'accéder au titre de poète ou prophète, et encore moins de médecin, à l'époque où on ne professait rien, où on se contentait d'interpréter humblement le message des dieux et des esprits, à l'époque où l'eau, la terre et le feu et le vent vivaient en harmonie, en ces temps très, très anciens, un jour, Shadi, l'esprit de la nature, surprit une conversation entre le grand esprit tout-puissant et l'implacable dieu du pays d'où l'on ne revient pas. Après de nombreuses vies, des milliers de vies tourmentées, riches, douces comme du miel ou intenses comme la braise, viles comme une flaque de boue ou belles comme le lever du jour, après de nombreuses vies, de belles vies, des vies riches et remplies, des vies pesantes ou fielleuses, insignifiantes ou incolores, dangereuses ou imprudentes, faciles, malhonnêtes, admirables, exceptionnelles, fantastiques, magiques, après ces milliers de vies, Shadi avait enfin gagné le rang de pur esprit. Le grand esprit tout-puissant, maître de l'univers, l'avait désigné pour veiller sur la nature. Shadi, il aimait ses serviteurs, les elfes, les gnomes, les génies, les trolls, les djinns, tout ce petit peuple des collines, des marais, des forêts, des lacs, des étangs, des glaciers, des prairies. Il s'en sentait responsable. Et telle était sa fonction. Mais Shadi aimait encore les hommes, comme à regret. Et d'ailleurs, il lui arrivait assez souvent de se conduire comme la plupart des hommes. Comme vous, comme moi, comme quand... Hein, vous savez, je sais que vous savez, mais oui, vous avez déjà ressenti ce picotement au creux du ventre, ce fourmillement caractéristique de l'impérieux désir de savoir qui vous pousse à vous mettre en porte-à-faux ou en très mauvaise posture pour en avoir le cœur net, pour découvrir le poteau rose connaître le fin mot de l'histoire. Oui, je sais que vous savez. On se cache derrière un arbre, une tenture, une porte, et on écoute. Ou encore, on questionne, très sournoisement, mais très efficacement. Un pauvre innocent témoin d'une conversation à laquelle on n'a pas assisté. On prêche le faux pour obtenir le vrai. Il y a tant de manières de parvenir à trouer le voile de l'indiscrétion. Est-ce un vice, un travers, un défaut que cette propension invétérée à vouloir savoir? Est-ce une simple malformation de l'âme, cette tendance à vouloir découdre les bouches les mieux cousues? Qu'est-ce que cette manie d'investiguer ce qui est secret? Mais je vous parlais de Shadi et je vois bien que vous pensez que je fais une digression qui n'a pas lieu d'être. En quoi Shadi, un esprit, aurait-il été concerné par cette curiosité malsaine? Par cette indiscrétion déplacée? Eh bien, détrompez-vous. Shadi, malgré son rang de pur esprit, demeurait un irréductible curieux. Il adorait espionner le petit peuple dont il était le dévin. Et encore bien davantage, épier les faits et gestes de ses maîtres, les grands immortels. C'était pour lui une réelle jouissance que de déroger à l'immuable règle de la discrétion absolue due aux architectes de l'univers. Un jour donc, Shadi surprit une conversation entre le grand esprit tout-puissant et l'implacable dieu du pays d'où l'on ne revient pas. Il en ressortait que les hommes n'avaient pas suffisamment, plus suffisamment, de considération pour la vie qu'ils menaient sur terre et galvaudaient les sages conseils des dieux répandus par les esprits. Il fallait qu'ils se ressaisissent. Shadi aimait les hommes. Poussé par son amour pour eux, il décida de les prévenir et descendit sur terre. Il s'adressa à Aucan, un semeur de mots et d'histoires, estimant qu'il serait mieux à même de diffuser la mise en garde par l'intermédiaire de ses contes. Vois-tu, charmeur de paroles, dit Shadi, le monde va mal. Le grand esprit tout-puissant est mécontent, déçu par les êtres humains. Les fils de la terre oublient qu'ils sont nés de l'amour, qu'ils doivent toujours aller à l'amour. Une erreur reconnue et ressentie serait un mal en voie de guérison, mais il faut raviver leur instinct. Le grand esprit tout-puissant va les laisser s'agiter encore quelque temps. Mais s'ils ne reprennent pas leur conscience en main, ils se verront contraints de revenir à une vie animale et végétale. La pensée, l'être, l'action ne seront plus de leur fait. Que veux-tu? Que veux-tu? Ils saccagent leur âme. Ils en sont venus à croire qu'elle est supérieure à celle des arbres, des fleurs, des oiseaux, des cailloux. La fatuité engraisse les cœurs. Et puis ils se laissent guider par certains d'entre eux qu'ils nomment chefs. Et ces chefs les conduisent à agir sans le moindre discernement, sans respect. Ils ne savent plus quoi inventer pour dénaturer la vie. Leur dernière invention, la loi du plus fort, elle ne correspond à rien du tout. Ah, bien sûr, Bien sûr, parmi eux, certains sont animés de bonnes intentions, sûrs d'eux et pleins d'amour. Tiens, tiens, regarde, cet homme barbu et doux, à qui le grand esprit tout-puissant a permis de marcher sur les flots pour développer sa confiance. Ah ben celui-ci est bien, est très bien. Mais si mal entouré, et ses paroles, qui ne sont autres que celles du grand esprit tout-puissant, soit dit en passant, mais elles sont tellement mal interprétées. Ses frères s'empressent de les transcrire dans de gros livres, mais ses scribes ne transcrivent pas vraiment ces mots. Et chacun y prend ce qui lui convient, seulement ce qui lui convient, ce qui leur convient. Que veux-tu ? Ce barbu est un peu trop poète. Dans quelque temps, le grand esprit tout-puissant fera un signe aux hommes. Parmi eux, 40 mettront violemment un terme à leur passage sur terre. Ils se jetteront du haut d'un très grand canyon nommé Niagara. Ce sabordage devrait constituer un événement suffisamment important pour que leurs frères se mettent en état d'alerte et se penchent sur le sens de leur vie. Explique-leur, charmeur de paroles, instruis-les de la prédiction, en colportant histoires et légendes. Prépare-les à admettre que le temps est venu de sortir de l'aveuglement pour préserver l'essentiel. Et Shahadi s'en retourna au pays des esprits. De nombreuses lunes passèrent, mais Aucan, le magicien de la parole, ne réagissait pas. Il savait pourtant qu'il aurait dû s'engager dans cette bataille de mots à livrer au coin des feux de camp, sur les agoras, au bonsoir des enfants et dans tous les lieux où l'on raconte et où naviguent les contes. Enfin, Aucan n'osait pas se lancer dans cette épopée. Il craignait de s'engager pour une cause trop difficile à soutenir. Il préféra la facilité des moments heureux du non-dit, moments où ses admirateurs adulaient le bon et talentueux conteur qu'il était, le bon et talentueux conteur qui ne dérangeait en rien leur conscience. Il finit par parvenir à se persuader qu'il avait rêvé, que même s'il était admirable de talent et doté d'une grande valeur de conteur, Shahadi, l'esprit de la nature, n'avait pas pu se déranger en personne pour lui confier une mission de cet acabit. Shahadi, lui, se désolait d'avoir placé sa confiance en ce messager traître, et appréhendait le moment où le grand esprit tout-puissant mettrait son présage à exécution. Il savait bien qu'il avait commis une double faute. Le jour du noir augure arriva, jour de larmes et de souffrances, de doutes et de peines. Les fils de la terre étaient anéantis de voir comment 40 d'entre eux avait sauté dans le vide d'un même élan, comment un troupeau fou de gazelles suicidaires, saisi d'une imprévisible et irrémédiable folie. Mais les fils de la terre ne comprirent pas. Bien pire, ils interprétèrent. Ils arrangèrent la chose de telle sorte qu'ils la firent passer pour un sacrifice en l'honneur du grand esprit tout-puissant. que l'on meure pour lui, et non par lui. Mit le grand esprit tout-puissant dans une terrible colère. Shadi aurait peut-être dû attendre que cette colère s'apaise avant d'aller confesser ses initiatives maladroites. Il fut accueilli comme il se doit par le grand esprit tout-puissant. Comment ? Non seulement tu t'es permis de violer l'intimité de mes conversations, mais tu as voulu atténuer l'effet de l'augure. Tu t'es permis de composer avec les hommes. Mais comment as-tu pu te fourvoyer ainsi ? Vois donc ce qu'ils ont fait de ton intervention. Cette Aokan s'est montrée indigne d'assumer un présage. Mais tu as frayé avec lui, mais pour rien. Pire encore, puisque ses frères ont changé l'oracle en sacrifice par leur mensonge. Vraiment, je commence à voir les choses comme elles sont. Les hommes dégénèrent. Et si de surcroît, les esprits tels que toi ont pitié d'eux, alors le temps est venu de les abandonner à leur triste sort.
Le grand esprit tout-puissant voit toujours juste, répondit humblement Shadi. Comment puis-je réparer ma faute, racheter ma conduite?
Tu as voulu aider les hommes, tu as eu pitié d'eux. La pitié n'est jamais digne. Tu vas retourner parmi les frères de la terre et tu essaieras de raisonner toi-même ces pauvres fous. Je ne te dis ni quand, ni comment tu y parviendras. Tu batailleras. Tes yeux prendront la couleur du temps et ta bouche aura le goût du sang. Mais demeure indigne guerrier. Je sais que tu agiras l'âme en paix, sans mauvais cœur. Et au regard de ton amour pour les hommes aussi, dans ton épreuve, je te donne une clé. Sur terre et à travers le temps, quoi qu'il advienne, souviens-toi d'un grand canyon nommé Niagara et du nombre 40, quoi qu'il advienne. Qu'il en soit fait selon ma volonté. Et Shadi redevint être humain.
Les jours succédaient aux lunes, lui apportant de moins en moins d'espoir. Le temps s'emballait. Les hommes inventèrent la guerre. Les tribus se divisèrent. Certains demeurèrent de vrais Indiens. D'autres devinrent Acadiens. D'autres Sémites. D'autres encore Mongols. Certains virent leur peau blanchir. Le temps s'emballait. Les frères de la terre n'avaient plus les mêmes rites, ni le même langage. Le temps s'emballait. Chaque fois que Shadi finissait une vie et en commençait une nouvelle, il espérait que ce serait celle qui lui permettrait d'utiliser l'outil de la raison. Mais le temps s'emballait. Comme ses frères de la terre, Shadi dégénérait. Impuissant à combattre les idées fixes, partout, aller plus vite, plus loin, être plus fort, plus puissant, maîtriser les affres des saisons, s'approprier des coins de terre, anéantir des tribus adverses, sans conscience, en foulant aux pieds les ruines des âmes. Le grand esprit tout-puissant, immuable, laissait couler le temps
sachant pertinemment qu'il faudrait en arriver à mettre un terme à ce saccage, à ce carnage dur et cruel, à tel point qu'un brouillard épais, répugnant et nauséabond entourait la terre. Il avait mal, cependant, de voir comment l'âme de Shadi était usée, trouée, reprisée de mille fils cassants sur l'irrémédiable chemin de la perdition. Alors, pensant avoir laissé aller suffisamment longtemps le chariot de la vie et la roue du temps, le grand esprit tout-puissant décida. Le jour où les hommes atteindraient le nombre 2021 de leur livre des jours, ils rappelleraient Shadi. Ce jour-là verrait la fin des hommes pour garder vivant sur la terre le monde animal et végétal seulement. Voilà, l'histoire est finie. Mais il faut que je vous dise, c'est un très vieil homme qui m'a raconté cette histoire il y a quelques mois en Provence. Ce vieil homme travaille comme palefrenier dans un élevage de chevaux pur sang. On dit de lui qu'il est un peu simple d'esprit. Le lendemain de son récit, il a grêlé. Une très, très forte grêle. Eh oui, en plein mois d'août. Curieux, n'est-ce pas? On ne sait pas si c'est à cause de la grêle, mais ce soir-là, au soleil couchant, 40 chevaux magnifiques se sont jetés du haut de la falaise qui délimite leur pâturage. D'un seul élan. C'était tellement triste. Les cavales avaient des regards humains en sautant dans le vide. Les gens du pays nomment cette falaise dans leur patois la Niagara. Et le vieil homme, eh bien le vieil homme s'appelle Shadi. Ses dernières paroles, quand je l'ai quitté, ont été « Va, il faut se réconcilier avec la vie. On a toujours une deuxième chance. Va !»
Ne tu mens pas la beauté du monde, ne tu mens pas la beauté du monde. Na 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 du du, va va vous vivre, va vous vivre, va vous vivre. Ne tu mens pas la beauté du monde. Chaque fleur, chaque arbre que l'on tue revient nous tuer son tour. Ne tuons pas la beauté du monde, ne tuons pas le chant des oiseaux, ne tuons pas le bleu du jour. Ne tuons pas la beauté du monde. Ne tuons pas la beauté du monde. dernière chance de la terre, c'est maintenant qu'il se joue. Ne tuant pas la beauté du monde, faisons de la terre un grand jardin pour ceux qui viendront.
Hymne à la beauté du monde, une chanson de Diane Dufresne qui, tel le conte que nous venons d'entendre, se passe de commentaires tant l'une et l'autre interpellent nos consciences. Merci à Sigrid Morcantini pour ce superbe conte « Shadi et les hommes » écrit il y a près de 30 ans et qui résonne, hélas, aujourd'hui encore en ce monde que nous ne cessons de malmener. La plume est à vous. C'est terminé pour ce soir. Merci à Frédéric Guyon, aux manettes et à la réalisation. Je vous retrouve dimanche prochain à cette même heure dans La plume est à vous. Vos textes, je le rappelle, sont toujours les bienvenus. Ils sont à adresser à plume@bretagne5.fr en joignant vos coordonnées et une courte biographie. Passez une chouette semaine sur Bretagne 5 et à très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.